Cet après-midi, nous allons parler du rôle des festivals et des maisons d'opéra dans la création. Les festivals sont innombrables, d'intérêt inégal, de qualités diverses, de renommées variables, qu'ils soient thématiques ou non. Ils reposent aussi bien sur de très petits moyens, ce qui n'exclut pas la qualité, que sur de très gros, ce qui ne garantit pas la qualité. Leurs organisateurs, professionnels ou non, ont en commun un amour immodéré de la musique, ce qui les rend forcément sympathiques. Il y a souvent dans leur démarche un désir de promouvoir des coups de cœur. Il peut s'agir de jeunes talents que l'on veut soutenir, instrumentistes, chanteurs, metteurs en scène, tout comme de compositeurs auxquels le festival veut donner une certaine lisibilité. Le public répond évidemment plus ou moins à l'invitation, d'abord en venant ou pas, ensuite en applaudissant ou non. Et enfin, le public des critiques, exerçant son droit de critique, va la formuler de manière plus ou moins positive, encourageant ou au contraire frappant en plein essor, et cela parfois de manière durablement irrémédiable. Je souhaite me concentrer sur les créations en prenant trois exemples, choisis délibérément dans l'environnement musical de notre région. Nous parlerons d'abord de Written on Skin, un opéra de George Benjamin, commande conjointe du Festival d'Aix-en-Provence et du Théâtre du Capitole en 2012. Puis de l'oratorio en cinq mouvements, L'éveil de l'humanité d'Edmund Barton Bullock, qui est le compositeur, et de Saint-Léger Monty Joynes, le librettiste, créé dans le cadre des festivals Musique entre pierres et Nuit de Palamini, dont la première intégrale a eu lieu le 9 juin 2019. Et enfin, l'annonce faite à Marie de Marc Bleuze, créée à Toulouse il y a quelques 10 jours. Essayons de cerner la démarche. Il faut d'abord la curiosité et l'intérêt d'un responsable de festival ou d'opéra pour une œuvre, ce qui va le pousser à rechercher, chez le compositeur, une création pour son propre programme. La réputation d'un créateur, voire sa célébrité, sont évidemment des atouts. Le directeur n'est pas nécessairement lui-même un artiste, il est toujours un gestionnaire. Ce qui peut passer pour sordide, mais c'est incontournable. Il doit penser budget, et la célébrité peut être un atout pour faire venir le public, car plus un festival est renommé, plus le public est au rendez-vous. On peut dire avec un brin d'ironie, parce qu'il faut en être. Finalement, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ne joue peut-être pas un rôle si important que ça. Mais peu importe, tant que ça amène de l'eau au moulin, de l'avoine ou du blé, comme on dit autrement, ça n'est pas plus mal. Après tout, pour une fois qu'une forme de vanité ou de snobisme serait positif, cela vaut largement la peine d'en profiter. Aujourd'hui, je vais vous passer un extrait qui va vous étonner parce qu'il n'est absolument pas en rapport avec nos créateurs. C'est un extrait du concerto pour quatre claviers de Jean-Sébastien Bach, le Largo en particulier. Pourquoi? Eh bien, parce que justement, Bach s'est battu toute sa vie, on le verra la semaine prochaine, pour essayer d'obtenir une rémunération correcte.
Thank you.
Le coût, c'est la rémunération, dans les cas retenus, du librettiste et du compositeur. À cela s'ajoutent les solistes, le chef d'orchestre, les éventuels danseurs, si l'on admet que l'orchestre émarge à un budget global. Dans l'hypothèse d'un opéra, il faut ajouter le metteur en scène, les décorateurs, les costumes, les éclairagistes, pour s'en tenir aux normes standards. Le cahier des charges est plus ou moins précis. Dans le cas de Written on Skin, il avait été requis de s'inspirer d'une légende médiévale du Midi de la France. À cela s'ajoute qu'en termes de mise en scène, la scène du théâtre de l'archevêché à Aix est petite, sans profondeur, comme celle du Capitole à Toulouse, et surtout ne dispose que de peu de machinerie. Transformant la légende, les deux auteurs ont créé une œuvre destinée à des chanteurs particuliers, d'où une remarquable adéquation des voix, porteuse d'un véritable message intemporel et universel. C'est l'histoire d'un riche propriétaire qui invite chez lui un artiste chargé de réaliser un livre d'enluminures. L'ouvrage doit immortaliser l'impitoyable exercice de son pouvoir politique et la paisible jouissance que lui procure l'ordre domestique dominé par sa femme. En fait, il est vieux, pas sympa, l'enlumineur est jeune et beau, la femme est jeune et belle, et ils tombent absolument amoureux l'un de l'autre. Ce qui fait que l'affaire va se terminer tragiquement, puisque le mari trompé va tuer l'amant et fera manger le cœur à sa femme. L'histoire a été couronnée de succès, mais dans un environnement qui était quand même très particulier, et même s'il a été redonné dans un certain nombre de festivals, il n'a pas encore un rayonnement tel qu'il mériterait, à mon avis, mais que ne lui a pas accordé l'opinion. L'oratorio de Belloc a été représenté avec des effectifs réduits de musiciens et chanteurs dans l'église Saint-Exupère, donc à frais moindres. Cela signifie néanmoins qu'en l'absence de CD prévus, mais pas encore diffusé, normalement c'est pour Noël, auteurs et compositeurs ne perçoivent rien. En clair, ils doivent avoir d'autres sources de revenus, ce qui rend les choses extrêmement compliquées, car même s'il y avait du public, ça ne correspond en rien à une rémunération digne de ce nom. Marc Bloz, enfin, lui ne vit pas de ses seuls revenus de compositeur. Ce qui n'enlève pas qu'il ait des droits comme les autres artistes impliqués. Le librettiste Jean-François Gardel se chargera de la mise en scène et le fils du compositeur Pierre Bleuze dirigera l'œuvre. Clémence Garcia, Sarah Lolland et Philippe Estève en portent la distribution. Pour toutes les œuvres, un droit d'auteur est dû. Il continuera pendant 70 ans après l'année de la mort du compositeur ou auteur, sauf suspension validée. On pense à l'exemple célèbre du Boléro de Ravel, dont les droits ont duré jusqu'en 2016, alors que le compositeur est mort en 1937, ce qui explique qu'on l'entende maintenant à toutes les sauces et pas toujours des meilleures, à la radio ou la télévision. Il n'y a plus de droits à payer. Alors, tout ça pour dire que le besoin d'inventer, le besoin de créer est bien réel, mais qu'il est difficile à mettre en œuvre, parfois faute de moyens. Et un article très récent de cette année montre cela. On a interrogé un certain nombre de compositeurs contemporains, et tous, je n'ai pas trouvé une seule exception, disent qu'aujourd'hui, ce que leur rapportent les créations a été divisé par deux par rapport à ce qu'ils touchaient à la fin du second millénaire. C'est préoccupant parce que s'il n'y a pas de création, le risque est que un nouveau public ne soit pas susceptible d'être conquis. Les vieux de la vieille, comme moi, qui sont des fans d'opéra, seront toujours contents d'entendre des œuvres qu'ils aiment, ce qui n'exclut pas qu'on rêve de nouveautés. Mais pour des nouveaux venus qui n'ont pas de culture traditionnelle opératique, ils ont besoin, et c'est normal, d'un langage plus conforme à notre temps. Si on ne leur donne pas, ils ne viendront pas. Et cela signe l'arrêt de mort des maisons d'opéra. On doit savoir en effet que sur un budget annuel, il n'y a pratiquement que 20%, ce qui n'est rien, dont le directeur dispose en dehors des frais de personnel. ce qui veut dire qu'il doit jouer au plus serré, chercher des mécènes, ce qui n'est pas toujours extrêmement facile, trouver des revenus annexes, notamment par des retransmissions. C'est vers cela que s'oriente actuellement, par exemple, la direction du Capitole de Toulouse, qui, grâce à un partenariat réussi avec Radio Classique, à la diffusion d'un certain nombre de ses représentations, ce qui lui rapporte automatiquement des royalties et permet de payer mieux musiciens et autres. J'ajouterai enfin que les créateurs se plaignent qu'aujourd'hui on donne beaucoup d'argent aux metteurs en scène, un peu moins aux acteurs musicaux et aux chefs d'orchestre, mais toujours moins pour eux. Donc il y a là un sujet qui mérite réflexion, qui n'est pas nouveau, car nous l'avons vu dans certaines émissions, on le verra encore, nombreux sont les musiciens qui se plaignent de devoir négocier au couteau quelques menus royalties qui leur permettraient non pas de s'enrichir, mais de vivre décemment. Pour quelques-uns comme Purcell ou Lully, qui ont construit et bâti des fortunes, innombrables sont ceux qui ont tiré le diable par la queue jusqu'à leur mort.